L'esprit du rivage, légende de la mer, par Pierre-Jacques Elias. Première cassette, deuxième face, page 43. Warne Pogan et Bella Postic. Cette histoire est la suite de La magicienne des Glénans. À l'Anilis, Bella Postic est à traire les vaches en gros tablier quand lui parvient le son de la cloche. Elle court mettre son grand habit de messe, prend sa croix d'or, se chausse de cuir. Dans sa main, le bâton du bon saint Vouga devient d'abord un bidet rouge du Léon, plus rapide que la paille au vent, puis un grand oiseau de mer qui l'emporte au sommet d'un roc de l'Arrée, A2RE accent aigu, une montagne de Bretagne. Là, un petit être, tout noir et tout ridé, accroupi dans un nid de terre à potier, couve gravement 6 cailloux. « Que fais-tu là, Cornandon ?»« La fée du Loc, ma propre femme, m'a condamné à couver ses œufs de pierre. Je serai délivré quand ils seront éclos. Vit-on jamais éclore des œufs sans blanc ni jaune ? C'est un mauvais sort qu'elle t'a fait. » À toi aussi, Bella Postic. Ton fiancé Warne est une grenouille verte dans son vivier. Dis-tu vrai, petit homme ? Hélas, comment faire ? Il faut aller la voir sous les traits d'un beau jeune garçon et lui enlever le filet d'acier qu'elle porte à la ceinture. Et puis tu la prendras dedans. Alors je serai libre, et Warne aussi, et beaucoup d'autres. Mais comment trouver un habit de garçon ? Regarde, dit Cornandon. Que ces quatre cheveux deviennent quatre tailleurs, le premier avec ses ciseaux, le second avec son aiguille, le troisième avec son fer et le dernier avec un chou. Deux feuilles de chou pour les culottes, une feuille pour l'habit, une autre pour le gilet. Le trognon fera les souliers et le cœur donnera chapeau, velours vert et satin blanc. C'est fait, va. D'un seul coup d'aile, l'oiseau de Saint-Vouga est à l'île du Loc et redevient bâton. Bella se présente au manoir. Jamais la fée n'a vu jeune homme de si mignonne apparence. Elle pense qu'elle va l'aimer plus de 3 fois 3 jours. Devant le grand vivier, Bella est si émue qu'elle en devient plus belle encore. « Jeune garçon, dit la fée, il faut m'épouser sur l'heure. »« Dame, je le veux bien, si vous me laissez pêcher un de ces poissons avec le filet qui pend à votre ceinture. Vous êtes encore un enfant, je ne saurais vous faire la moindre peine. Voyons si vous prendrez le procureur, le tailleur, le meunier, le chantre ou le... C'est le démon que je prendrai. » Vite, Bella Postic coiffe la magicienne de son filet. À l'instant même, de la créature illusoire, il ne reste qu'une étoile de mer qui est la forme éternelle des mauvaises fées quand les bonnes deviennent étoiles du ciel par la grâce de Dieu. Du couteau de Saint-Corentin demeuré sur la table, Bella touche la grenouille et Warne est devant elle, touche les poissons l'un après l'autre et ils reprennent figure d'homme. Là-dessus revient le Cornandon dans son nid de terre traîné par 6 mouches de chêne éclose des 6 cailloux. Il ouvre les coffres de la fée. Warne emplit d'or et de perles ses larges braies léonardes, et le bâton de Saint-Vouga devient carrosse pour le retour. Il y eut une belle noce à l'Anilis, où les trésors de la mer firent fortune paysanne. Mais, aux îles des Glénans, on trouve désormais moins de perles que de bernique, et plus d'ormeaux que de pièces d'or. Les berniques et les ormeaux sont des sortes de coquillages. Page 46. Les pétrifiés de Bréa. B-R-E accent aigu, H-A-T. L'archipel de Bréa est le royaume des pierres. Saint Maudé, M-A-U-D-E-Z, le sait bien, qui fut accueilli par une pluie de galets quand il vint pour la première fois évangéliser les Bréatins, les habitants de Bréa. C'est une pierre aussi qui lui tenait lieu de lit et qu'il chargea gaillardement sur ses épaules pour la mettre à l'eau en guise de barque, parce que le démon l'en avait défié. Et il y a toutes les autres pierres, du caillou qui roule à la roche énorme, celles des abords et des assises de l'île, des pointes, des caps, des grèves, des collines et des pinèdes, des pierres debout, couchées, solitaires ou en troupe, plus aiguës que des épées, plus lisses que des rondaches, sculptées par le vent et les embruns, rongées de lichen ou ruisselantes sous les assauts de l'eau salée. Il y en avait une, maintenant brisée, où les vieilles filles en mal d'époux venaient tracer leur nom à l'adresse des veuviers, désireux de convoler encore. Il y a l'amoncellement des rochers du Pan, P-A-N, deux masses chaotiques réunies par un dolmen qui surplombe des gouffres. Les jeunes filles y venaient naguère, à la main trois cailloux qu'elles jetaient dans l'abîme. Autant de ricochets, autant d'années encore à espérer le mari. Un seul ricochet, et il était grand temps de songer au trousseau. Mais les rochers du Pan racontent surtout le drame du comte Mériadec de Goëlo. M-E accent aigu R-I-A-D-E-C et Goëlo, G-O-E tréma, 2-L-O. C'était un seigneur de bon renom. Il avait deux fils qui n'étaient pas meilleurs que les cornes du diable, Gwil, G-W-I-2-L, et Iselbert, I-2-S-E-L-B-E-R-T. Fatigués d'attendre la mort de leur père, ils décidèrent de le tuer pour entrer en possession de son héritage. Mériadec eut vent du complot et put s'enfuir. Mais les deux félons le rejoignirent à la pointe du Pan et le crime fut accompli. Or, quand ils voulurent porter le cadavre sur la falaise pour le précipiter, ils sentirent leurs membres s'appesantir, leur chair se figer. Ils devinrent de pierre, et pierre aussi le corps du comte entre les deux. Depuis, ils sont restés pétrifiés sur le vide, à jamais unis par la pétrification de leur père, dont le sang a teinté tous les rocs de Bréa. Sur une colline, il y a une théorie de grandes pierres en postures humaines. On les dirait agenouillées et en prière. C'est en effet une curieuse adoration de bergers, de vrais bergers, de cette île où le châtiment majeur est la métamorphose pétrée. Un jour, la fée du Pan reçut la visite d'une amie chère, une princesse des eaux. La visiteuse était si belle que les pauvres bergers laissèrent vaguer leurs troupeaux pour s'assembler autour d'elle et lui apporter le tribut d'une ferveur qui ne manqua pas de l'importuner à la longue. Furent-ils indiscrets? Devinrent-ils trop pressants? La légende nous dit que la fille des eaux pria son ami de la délivrer de ses admirateurs éperdus. À l'instant, la fée du Pan les pétrifia comme ils étaient. Ainsi témoigneront-ils inlassablement de la fascinante beauté des sirènes que l'on dit mortes aujourd'hui, tant que le vent de sable et de sel n'aura pas fini d'éroder leurs figures grotesques pour en effacer jusqu'à la dernière trace de leur troublante humanité. Page 49. Les houles du Cap Fréhel. Houles, H-O-U-L-E-S. On t'expliquera tout à l'heure ce que c'est. Et Fréhel, F-R-E accent aigu, H-E-L. Le Cap Fréhel dresse devant la mer ces hautes ruines de grès rouge qui donnent l'illusion d'un travail de main d'homme tant elles sont régulières. Et peut-être la nature n'est-elle pas seule à y avoir travaillé, qui sait? Peut-être le jeune Gargantua, G-A-R-G-A-N-T-U-A, s'est-il amusé à ce jeu de construction à la mesure d'un géant? Peut-être les fées des houles ont-elles usé de sortilèges pour fortifier ainsi leur demeure, à moins qu'un saint venu de Cambrie, C-A-M-B-R-I-E, c'est l'ancien nom de l'Écosse, n'ait imposé au paysage, à force de prière, une éclatante marque de la puissance de Dieu. Nul ne doit ignorer que Gargantua vit le jour au Cap Fréhel et que Plévenon, P-L-E accent aigu, V-E-N-O-N, conserve son immense dépouille. Du haut de l'un de ses rochers, il prit son élan pour bondir à Jersey, J-E-R-S-E-Y. Ce fut un fameux saut. De l'effort qu'il fit, le géant imprima dans la pierre la trace de son long pied chaussé de poulaine. La marque en est restée en témoignage, et pour mieux nous convaincre, un peu plus loin, le sauteur a fiché son bâton de pierre. Des fées avaient établi leur demeure dans les grottes des falaises qu'on appelle des houles, H-O-U-L-E-S. Certains disent des goules, G-O-U-L-E-S, et le mot nous plaît mieux encore. Elles se prolongent très loin par de longs couloirs et des salles meublées en pierre. On dit que le coq de la houle de Poulifée, P-O-U-L-I-F-E accent aigu E, venait chanter jusque sous le maître-autel de l'église à Plévenon. Les fées menaient une vie active et ménagère. Elles étaient bonnes fileuses et l'on entendait souvent le bruit de leurs rouets dans les grottes, surtout à la marée montante. Elles allaient laver leur linge à la mare de Gaulehen, G-A-U-L-E-H-E-N, sur la lande aride, avant de l'étendre à sécher sur l'herbe. Un mortel qui aurait pu parvenir au bout du cap sans ciler des yeux se serait emparé de toute la lessive. Mais toujours le vent de mer faisait trembler les paupières et le linge devenait invisible. Ces fées diligentes boulangeaient un pain délicieux. Elles aimaient beaucoup le beurre, possédaient bœufs et vaches qui vaguaient à la pâture sur le cap. Un jour, le bœuf des fées de la Teignouse, T-E-I-G-N-O-U-S-E, s'écarta vers les blés de Plévenon et leur fit dommage. Les paysans portèrent plainte aux fées. En guise de réparation, celles-ci leur donnèrent une belle gage de leur pain magique. Et ce pain les nourrit et ne diminua point jusqu'au jour où les imprudents, pourtant prévenus, en coupèrent une tranche pour quelques mendiants de passage. En toutes circonstances, les fées des houles se conduisaient fort honnêtement avec les hommes, mais elles exigeaient qu'on en usât de même avec elles. Celles de Poulifée reçurent à leur table un gars de Plévenon et l'enrichirent de leurs cadeaux. Il promit en retour qu'elle serait marraine de son futur enfant. Mais sa femme ne voulut jamais consentir à livrer sa progéniture aux fées et les cadeaux se volatilisèrent. C'est que les fées n'étaient point chrétiennes. Qui pouvait les surprendre dans leur sommeil voyait grouiller les vers dans leur bouche ouverte parce qu'elles n'avaient pas été touchées par le sel du baptême. On vit débarquer un jour en baie de la Fresnay, F-R-E-S-N-A-Y-E, un saint de Cambrie, C-A-M-B-R-I-E, c'est l'ancien nom du pays de Galles, qui rassembla les gens sur la lande de Fréhel pour leur prêcher la bonne parole. Désespérant de les convaincre, il se mit en prière, jeta sur la falaise une goutte de son sang et tout le cap vira au rouge. Dès lors, les fées des houles se dérobèrent aux yeux des hommes, mais leur rouet bourdonne toujours dans les entrailles de Fréhel. Page 52. L'or du Dourduf, D-O-U-R-D-U-2-F. Il y a mille fois longtemps, un navire corsaire est allé par le fond dans l'anse du Dourduf, à l'entrée de la rivière de Morlaix, M-O-R-L-A-I-X, avec un chargement de doublons d'or. Depuis, quand les vagues se gonflent sous le vent, brassant les épaves des abîmes, le fantôme du capitaine prend le quart sur une haute roche noire et veille sur le trésor englouti. N'essayez pas d'y monter vous-même, car il vous pousserait dans le vide et vous iriez rejoindre les doublons. C'est le pousseur du Dourduf, fatal aux assoiffés de l'or, et vous ne seriez pas sa première victime. Près de là se dressait jadis un sombre manoir où vivait un vieux sire avec sa fille unique. Elle avait nom Igilt, I-G-I-L-T. Grande était sa beauté de brune aux yeux bleus de lin, plus grande encore son ambition. Son père aurait désiré la marier à un homme de bien, mais à moins d'être né prince ou duc, il ne fallait pas songer à lui passer l'anneau. Elle n'avait que mépris pour les prétendants médiocres. On la disait sorcière parce qu'elle apparaissait souvent debout sur le rocher du fantôme où personne jamais n'aurait osé se risquer. Bien des jeunes hommes accomplis passaient en barque devant le Dourduf dans l'espoir que le regard bleu de l'Indigilt s'arrêterait sur eux avec seulement une ombre de complaisance. Mais tous étaient pour elle comme cailloux de grève. Certains, plus durement épris que les autres, s'enhardirent jusqu'à la requérir d'amour. Elle menait le prétendant égaré vers le rocher noir, au pied duquel venaient s'abattre les vagues de plomb. « Ma corbeille de noces est au fond de cette eau, dans les flancs du navire perdu, disait-elle. C'est la seule qui vaille mon prix. Va me chercher l'or et je suis à toi. » Le malheureux plongeait au gouffre, la main fantôme du pousseur entre les épaules. Aucun ne remonta jamais. Et désormais, pour les gens apeurés qui fuyaient son approche, la brune Igilt devint la fiancée des morts. À force de guetter et d'attendre le prince, il vint un jour où le prince apparut sur la mer. Il venait d'Hibernie, H-Y-B-E-R-N-I-E, c'est l'ancien nom de l'Irlande, et s'appelait Ivor, Y-V-O-R. Par ordre de son père, un conseiller très sage était à ses côtés, car la jeunesse est l'âge périlleux. La dure Igilt, bâtie au sable de l'orgueil, Igilt aux yeux bleus de lin, fut touchée au cœur. 3 jours de suite sur le rocher noir, elle écouta les douces paroles d'Ivor. Elle avait oublié sa corbeille de noces. Pendant 3 jours, du Dourduf à Morlaix, le conseiller très sage du prince Ivor sut délier les langues, puis il alla trouver le vieux sire. Le prince Ivor désire votre fille pour épouse, mais le roi, son père, exige une dot de 1000 doublons. Pensez à les rassembler. Hélas, dit le vieux sire, je ne possède que ce vieux donjon. Si j'avais seulement autant de pièces d'or que de corbeaux dans mon échauguette. Peut-être votre fille saura-t-elle où prendre sa dot, dit le conseiller très sage. Quand Igilt apprit la condition de son bonheur, elle sut que le châtiment était là et sa tête se perdit. Elle courut au rocher. Il lui semblait voir miroiter sous la lune les doublons d'or au fond de l'eau. Elle plongea désespérée, ramena une poignée de sable, se laissa couler à nouveau, reparut, les mains pleines de gravier dérisoire. « J'aurai bientôt la somme entière !» Et la mer l'engloutit. Au fond de l'anse du Dourduf, la fiancée des morts repose entre ses prétendants sur un lit de doublon. Et sur la haute roche noire, le fantôme du capitaine a repris son tour de veille. Page 55. Le passeur de la Laïta. L-A-I-T-R-E-M-A-T-A. Kazit Achanon Ebeo, War Dresen Arevaro. Loïc Gern, L-O-I-T-R-E-M-A-G, plus loin G-U-E-R-N, de Cloars, C-L-O-H-A-R-S, avait fait conséquence avec la jeune héritière Maharid, M-A-R-C-H-A-R-I-D, et il y avait promesse de mariage. La noce aurait lieu le jour même du pardon forestier des oiseaux à Toulfoen, T-O-U-L-F-O-E-T-R-E-M-A-N. Un soir, les fiancés, au retour d'une visite à leur parenté de Guidel, G-U-I-D-E-L, descendirent au passage de Carnoët, C-A-R-N-O-E-T-R-E-M-A-T, pour traverser la Laïta qui mène à la mer depuis Quimperlé, Q-I-M-P-E-R-L-E, accent aigu, les eaux de l'Isole, I-S-O-L-E, et de l'Ellé, E-2-L-E, accent aigu. Le passeur était debout dans sa barque. Maharid y monta la première, mais Loïc voulut allumer sa pipe. Il dit de l'attendre et fut chercher un tison dans la chaumière de son parrain qui était à deux pas. Quand il ressortit, la barque avait quitté la berge. « Arrête !» criait Maharid. « Que dira Loïc de ta félonie ?» Aveugle et sourd, le passeur avait croisé les bras et la barque voguait vers la mer, sans voile ni rame, pendant que le jeune fille, horrifiée, voyait se tordre sur la rive des spectres et des suaires. « Reviens, passeur !» hurlait Loïc, « ou je te brise la ligne du dos !» En vain. Comme une ombre, une vieille mendiante surgit des fougères. « M'est avis que ta fiancée est perdue, dit-elle. Il te faudra chercher une autre moitié de ménage. Maharid a oublié de faire le signe de croix et elle a regardé en arrière quand elle s'est assise dans la barque. Le passeur de la Laïta est un sorcier vendu aux démons. Il l'a conduit tout droit vers la plage des morts. De désespoir, Loïc est tombé à terre, les genoux rompus. « Lève-toi, Loïc Guerne, mon fils, dit la vieille. Tu m'as donné quelquefois de ton pain. Je vais te le rendre au prix de l'aumône, qui est 100 fois celui de l'argent. Quand viendra la minuit, monte au seau du cerf dans la forêt et coupe une branche de houx. Tu tremperas ce houx dans le bénitier de la chapelle Saint-Léger. Puis tu siffleras le passeur. Dans la barque, tiens les yeux vers l'avant et récite le chapelet jusqu'au 33e grain. Alors tu ordonneras au sorcier de te conduire vivant à la plage des morts. Et rappelle-toi les mots justes. Vivant à la plage des morts. Ebeo war Dresen a Revaro. Loïc Guerne a coupé le houx. Il a pris le chapelet de sa mère et il a prié dans la chapelle de Saint-Léger, le protecteur des fiancés, le front contre le bénitier où trempait la branche. Le voilà sur la rive. Il siffle le passeur. La barque aborde sans bruit. Loïc y monte. Le houx à la ceinture, le chapelet en main, le regard vers l'avant. Le passeur jure tout bas en prenant les rames. Le jeune homme récite le chapelet. Mais le souvenir du visage de sa douce le distrait de sa ferveur. Au 30e grain, le chapelet lui échappe et tombe à l'eau. La barque vire d'un coup sec et pointe vers la mer. Affolé, Loïc saisit le houx béni et en frappe au visage le nautonnier qui disparaît dans un hurlement. La barque va se briser contre un rocher de la berge. On dit que le passeur de la Laïta s'est changé en un vieux chêne dur. Au pardon de Toulfoen et sur le port du Pouldu, P-O-U-L-D-U, un pauvre cher déguenillé, aux yeux tragiques, a murmuré longtemps le nom de Maharid à voix douce et prié les bonnes âmes de le conduire à la plage des morts. Page 58, Potre Pen R. Lo. P-O accent circonflexe T-R, plus loin P-E-2-N, plus loin E-R, plus loin L-O. Qui appelle au secours à la pointe du sable de Penerlo, avec cette étonnante voix de détresse qui ressemble à un rire. Jean de Quiberon, il faut se mettre à l'eau pour aider cette âme au désespoir de perdre son corps. Quelle clameur étrange! Là-bas, voyez ce visage horrible dans les vagues. Vite, il va couler au fond. Mais quoi? Un corps de monstre humain émerge tout entier. Le voilà qui s'éloigne en marchant sur l'eau comme en grand chemin. Il ricane, il se moque de nous. C'est bien fait. Il ne nous reste plus qu'à nager vers la grève, avec le froid de l'eau de mer dans les eaux. Nous allumerons un grand feu pour sécher nos hardes, et chacun saura que c'est un nouveau tour de Pôtre Penerlo. Pêcheur de Quiberon, quel est cet énorme poisson qui se débat dans ton filet?
Je ne sais pas son nom, je n'en ai jamais pris de pareil, et il m'a donné bien du mal.
Toute la nuit, je me suis rompu les bras à le vouloir hisser à bord. Mais j'en suis venu à bout, et maintenant je vais le vendre un bon prix pour la table d'une grosse tête.
Pêcheur, as-tu jamais vu un poisson cligner de l'œil? As-tu jamais entendu rire un poisson? Là-dessus, le poisson se lève du filet sous la forme d'un grand gars qui disparaît en sifflant, les mains aux poches, tout fier de lui.
Malédiction rouge, j'ai pêché Pôtre Penerlo. Il fait noir comme au fond d'un sac. Je ne reconnais plus ma route. Ah, quelqu'un vient. Hé, l'homme, par la grâce de Dieu, suis-je encore loin de Quiberon?
Cela dépend comment vous marchez et vers où. Mais si vous voulez me suivre, je vous conduirai tout droit. J'ai mesuré de mes pas toute la terre de la presqu'île et je n'ai pas besoin de mes yeux pour savoir où je suis.
Mais nous ne sommes plus sur la route et je n'entends plus le bruit de mes pas.
Nous avons coupé par un raccourci dans la lande.
Mais t'as vu que nous descendons vers la mer? Mes pieds s'enfoncent et je perds mes sabots.
Prenez patience, c'est seulement un mauvais passage.
Attendez, je ne peux pas vous suivre, diable d'homme. Plouf! Me voilà étendu dans la vasière, tout du long de mon corps. Où êtes-vous? Il rit et il s'en va. Toi, si je sais un jour qui tu es, je te mettrai un fil de fer dans ton groin de cochon.
Je suis Pôtre Penerlo, si tu veux savoir.
Qu'y a-t-il donc? Ma barque n'avance plus, et le vent pourtant tire au mieux.
Une main énorme est agrippée à mon arrière. C'est la main de Pôtre Penerlo, le naufrageur qui rit. Je suis perdu.
Donne-moi ton gouvernail, pêcheur pourri. Je sais mener une barque mieux que vous tous avec vos faces de singe. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. J'ai fait grande chair à Carnac, chez mon frère, le taureau de Porhendro, P-O-R-H, plus loin E-N, plus loin D-R-O.
Et Pôtre Penerlo ramenait la barque au port quand il le voulait bien. Avec lui, on ne savait jamais. C'était une question d'humeur. Il aimait, dit-on, les farces plus que les drames. Il n'était jamais aussi content que lorsqu'il pouvait, transformé en cheval, prendre sur son dos un imprudent et lui faire piquer une tête dans quelque mare boueuse. Lui et son frère, Porhendro, se sont-ils fatigués de jouer des tours? Voilà bien longtemps qu'on les a vus dans la presqu'île. Et cependant, sur le sable de Quiberon ou de Carnac, on rencontre parfois l'empreinte énorme d'un pied de cheval ou de taureau.
Page 61, Philopène de la Palude. F-I-L-O-P-E-2-N et Palude, P-A-L-U-D.
Philopène, grande bête, le diable dans sa tête et la fille de l'eau salée, autant que lui, endiablée.
Entre la torche, T-O-R-C-H-E, et Penhor, P-E-N-H-O-R-S, il y a une levée de galets qui sépare la grève de la palude infertile, P-A-L-U-D, c'est-à-dire le marais. Entre Penhor et Canté, C-A-N-T-E, accent aigu,
il y a des bancs de rochers briseurs couchés au pied des falaises. C'était là jadis le domaine de Philopène, le grand sauvage qui logeait le diable dans sa tête. Une pièce d'homme, je vous le dis, puissant et rugueux comme un arbre de chêne, et plus près de la bête que du chrétien. Sous le porche de l'église de Tréguennec, T-R-E accent aigu, G-U-E 2-N-E-C, Marmot sans père ni mère ni parenté, il avait surgi de nulle part, m'est avis. Sur la palue, il s'était bâti une logette de pierres sèches et de bois d'épave. Nuit et jour, entre la torche écantée, il errait avec son croc, dont il fouillait les creux des roches pour se nourrir, gesticulant, poussant d'énormes cris pour annoncer son approche et faire le vide autour de lui. Il n'était pas méchant. Une fois seulement, un jour de pardon, il était venu à la lutte contre Yann Braz, Y-A-2-N, trait d'union, B-R-A-S, de Skaer, S-C-A-E-T-R-E-M-A-R, et l'avait étouffé dans ses bras. Ce fut parce qu'il n'était pas maître de sa force. Une nuit, une barque sans nom et d'une étrange forme vint se crever sur les rochers. Au matin, Philopène glanait les épaves quand il vit sortir de l'eau, devant Pénor, une fille en haillons. Elle fit quelques pas sur le sable, flaira sans doute une présence proche et courut se remettre à la mer. Philopène marcha jusqu'à la rencontre des traces laissées par la fille et revint lentement dans sa tanière en appuyant soigneusement ses pieds nus pour marquer leur empreinte. Ayant fait le chemin, il attendit, confiant. Peu de temps après, la nageuse, épuisée, s'écroulait devant lui sur la couche de varech. Ils vécurent ensemble depuis lors. Deux silhouettes farouches coururent les grèves. Au cri rauque de Philopène répondait un cri plus clair et plus perçant. Elle passait des heures à jouer dans les vagues, et même au creux de l'hiver, on la vit plonger dans l'écume du rocher roux. Les gens de la palue l'appelaient la fille de l'eau salée. Jusqu'au jour où ils disparurent tous les deux. Il se passa bien du temps avant que quelqu'un s'aventurât vers la cabane de Philopène pour voir. Et là, il découvrit la fille, morte sur le varech et d'une effrayante maigreur. Auprès d'elle, à côté au mur de pierre sèche, Philopène lui tenait les deux mains. Il était mort aussi, mais depuis un instant. Son monstrueux visage était encore verni de larmes. On les enterra dans l'enclos d'une chapelle de la palue, on ne sait plus laquelle. Ce que l'on sait bien, c'est que le lendemain, le corps de la fille était retrouvé à même le sol. On l'enfouit dans un trou plus profond. Elle revint à la surface. Alors, quelques sages du lieu proposa de porter sur la grève la fille de l'eau salée, ce qui fut fait. La mère prit aussitôt le corps et plus jamais ne l'a rendu. Le grand cadavre de Philopène repose en terre maigre, entre la torche écantée. Sans doute s'y trouve-t-il à son aise, car il n'a pas essayé d'en sortir. Il faut croire qu'il était de sang breton. Quant à elle, m'est avis que je ne dois pas en dire un mot de plus. Je ne suis qu'un pauvre homme de la palue. Dans leur jeu, nos enfants disent encore, et sans rien y comprendre, Philopène, Chalopène, Andiaoul, Enenglopène. Gant mechard douzal, kendiaoulez hag al. Page 64. La légende d'Azénor, A-Z-E accent aigu, N-O-R. Benoz andrinded war andreizidi. Sur la grève de Porspoder, P-O-R-S-P-O-D-E-R, on vit aborder un jour une grande auge de pierre qui venait d'outre-mer en flottant sur les eaux. De ce lit et de cette barque se leva Saint Budoc, BUDOC, ou Beuzec, BEUZEC, dont le nom signifie en breton le noyer. Et son histoire la voici, comme la chantèrent longtemps les marins dans la gouerze de la tour d'Armor. Madame Azénor était la fille d'un prince de Léon dont le château s'élevait à Brest, port de mer. Sur le bruit de ses perfections, le comte Schunair, C-H-U-N-A-I-R-E, de Goëlo, fit demander sa main à grand honneur par des envoyés vêtus de jaune et d'argent. 15 jours pleins durèrent les noces, 15 jours le bonheur d'Azénor. Puis il lui fallut suivre son époux. Sa mère mourut bientôt, et son père prit une seconde femme, aussi mauvaise que le fiel. Il n'y avait pas seulement 8 mois qu'Azénor était marié, et déjà sa marâtre, à force de perfidie et de mensonges, avait convaincu le comte, son époux, qu'il était trop tard pour lui de préserver son nid de coucou. Et la jalouse, la haineuse, fit accuser la pauvre Azénor d'impudicité et d'abandonnement passés en scandale public. À grand déshonneur, le faible comte Schunair fit reconduire sa femme au château de son père, à Brest. Elle fut enfermée dans la tour qui porte son nom avant d'être livrée au feu. Et c'était une grande pitié de l'entendre chanter dans la tour ronde et appeler le pardon de Dieu sur ses bourreaux. Mais quand on fut pour la brûler, jamais le feu ne voulut prendre, dit la Gwerz, G-W-E-R-Z. Peut-être aussi lui fit-on grâce parce qu'elle attendait un enfant. Elle fut jetée à la mer dans une barque sans voile et sans rame qui l'emporta au large. Des pêcheurs prétendirent l'avoir rencontrée alors qu'elle venait de donner jour à son fils Budoc, promis à la noyade. Et l'enfant, sur le sein blanc de sa mère, semblait une colombe sur une conque marine. D'autres disent que la barque était un tonneau dans lequel Azénor navigua 5 mois durant, nourri et réconforté par un ange, avant de s'échouer sur une grève d'Irlande. Quel ne fut pas l'étonnement des Irlandais quand ils voulurent mettre en perse le tonneau d'épave, de voir surgir des douves une belle jeune femme porteuse d'un enfantelet tout sourire. Cependant, la belle-mère, au moment de mourir, avait avoué sa forfaiture par peur des tourments d'enfer. Dès lors, le comte de Goëlo n'eut de cesse qu'il n'eût retrouvé sa femme. Il parcourut les mers et les pays étrangers, s'enquérant auprès de chacun. Ayant pris terre un jour aux îles de Bretagne, il se trouva devant un petit garçon, blond de cheveux et bleu des yeux, du blond unique et du bleu sans pareil qui éclairait le doux visage d'Azénor. Et c'était son fils, Budoc. Et Budoc le conduisit vers Azénor, qui lavait du linge au lavoir tout proche. À grande joie, ils revinrent tous les trois en Armorique, A-R-M-O-R-I-Q-E. C'est l'ancien nom de la Bretagne. Ainsi chante la Gwerz. D'autres disent que Budoc fut consacré à Dieu dans un monastère d'Irlande. Il vivait dans l'humilité. On voulut en faire un archevêque. Il dut fuir cet honneur, et n'ayant point d'autre navire, il s'étendit dans son lit de pierre qui lui fit franchir le détroit jusqu'à la grève de Porspoder. Que la Trinité protège les marins. Page 67, Iseult. Y-S-E-U-L-T, au blanc chemin. Belle amie, si est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous, Marie de France. Sachez que c'est en Petite-Bretagne et nulle part ailleurs que mourut l'amant incomparable, Tristan de Lohonois, T-R-I-S-T-A-N, de Lohonois, L-2-O-N-O-I-S, le visage tourné vers la mer. Par honneur, il s'était durement départi de son amie douce, Iseute la blonde. Au château de Carhaix, dans la chambre haute, il trouva la fille du duc Hoël, H-O-E-T-R-E-M-A-L, la jouvencelle au corps Jean qui chantait une chanson de toile en brodant à fil d'or de ses blanches mains. Elle avait nom Iseute, sachez-le, et Tristan la prit à femme pour l'amour de ce nom. Mais c'était l'autre Iseute, Iseute la blonde, qu'il avait au cœur, et ce fut Félonie. Or, il advint un jour, guerroyant contre le baron Bédalis, B-E-D-A-L-I-S, il fut navré d'un coup de lance dont il ne cessa de languir. Quand il sut que la vie le quittait, il désira revoir Iseute la blonde. Il manda Caerden, K-E-R-D-E-N, le preux, son beau-frère, lui fit appareiller sa nef pour aller l'acquérir en Cornouaille d'outre-mer. Ils convinrent que si Caerden ramenait la reine Iseute, Iseute la blonde, il cinglerait à voile blanche, à voile noire s'il revenait seul. Iseute aux blanches mains a surpris le secret de Tristan. De douleur elle se pâme. Tant elle aime son époux qu'elle ne saurait souffrir nul autre auprès de lui jusqu'à la mort. La graine amère de la vengeance pousse racine dans son sein. Qui lui ferait grief? Tristan s'est fait porter sur les rochers de Pinmar, P-E-N-M-A-R-C apostrophe H, qui est le port de Carhaix, dit le comte. Si vous ne croyez pas ce qui est dans les contes, vous n'êtes point prud'homme. Tristan ne vit que d'attente. Ses yeux ne quittent pas l'horizon de mer. Mais l'orage tourmente au large la nef de Caerden qui vire et louvoie d'amont en aval. Tristan défaille. La mort est proche. On le ramène à son manoir. Iseute, sa femme, est sur le rocher. Iseute aux blanches mains, quand apparaît la voile blanche. 12 amis, la nef de Caerden arrive au port, elle vous apporte la guérison. Dites-moi, dame, de quelle couleur est la voile? Ô sire, la voile est toute noire, dit la dame jalouse. Tristan se tourne vers le mur. Par 3 fois, il soupire le nom d'Iseute et libère son âme. En vain, l'épouse aux blanches mains la colle et le baise. C'en est fait de lui. La blonde Iseute, la reine, débarque aux portes de Pinmar quand les cloches des moutiers sonnent le glas. Elle s'émerveille du grand deuil qui règne par les rues. On lui dit que le preux Tristan n'est plus. Alors elle monte au palais, aussi vite qu'elle sait, les coiffes pendantes, la guimpe dérangée. Elle écarte l'autre Iseute du linceul, découvre la face de Tristan, lui baise la bouche et s'étend contre lui, corps à corps. À l'instant, elle meurt pour l'amour de son ami. Mais l'autre Iseute est mort aussi, pour la même douleur. Je vous dirai que les goémons fauves de Pinmar sont gonflés de larmes et pleurent dans la mer. Ce n'est point pour la passion de Tristan et d'Iseute la blonde, dont les tombeaux de Béryl et Calcédoine sont réunis par la tige vivace d'une ronce à Tintagel, T-I-N-T-A-G-E-L. C'est pour le crève-cœur de l'autre Iseute, la bretonne aux blanches mains, Iseute la simple et la belle, morte d'amour solitaire entre Pinmar et Carhaix, et qui repose solitaire dans sa tombe inconnue. Fin